not easy with patience. Without fear, but with pain. Look at us, we'll walk to freedom's not a dream. Look at the faces, our will is strong. Look at us, we'll walk to freedom's not a dream. Look at the faces, we make one.
Oh, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes d'HDR et Principe Actif à l'occasion de ce pire reste à venir. Ce matin, nous parlerons nature. Vous avez entendu les petits oiseaux derrière. Nous, on les aura sûrement à d'autres moments durant cette émission. L'objet, c'est de parler nature avec un spécialiste de la spécialité, bien entendu, parce que le printemps, ça donne envie de parler nature. C'est le renouveau de tout ça. On aura l'occasion d'en parler. Nous irons passer un petit coup de fil à nos copains d'Amnesty International aussi, parce que ça y est, ils vont diffuser enfin ce fameux film « Tout va bien » au cinéma d'Evreux, au cinéma Pâté d'Evreux. Ouais, ils ont eu des petits problèmes la fois précédente, coupure d'électricité, sûrement un sabotage de ceux qui pensent que tout ne va pas bien. Et ben, si ils pourront diffuser ce film, tout va mieux. De la chronique, on retrouvera l'ami So au micro avec nous. Elle vient de s'installer sur le poste de pilotage. Salut So.
Salut à tous, salut JC.
Et puis, bien entendu, du beau son, de la bonne humeur. Enfin voilà, vous connaissez toute la recette du pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
HDR.
Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et c'est exactement ça, le pire reste à venir. Ce matin, nous allons parler nature. Ça, je vous l'avais dit. Et comme invité, nous avons Dylan Onotaro, chargé de mission, responsable de projet, la valorisation du plan nature sur le département de l'Eure, qui est un titre bien ronflant pour un mec bien sympa qui va nous parler naturellement, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, bonjour.
Salut, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Alors, on le disait, on va parler nature, tu es un spécialiste de la nature. Une de tes missions, c'est de valoriser justement cette nature, faciliter l'accès à la nature sur le territoire eurois, mais je crois que tu t'intéresses à la nature de manière générale en fait.
Ah oui, depuis très longtemps, je m'intéresse un peu à la nature au sens large.
T'es tombé dedans comment ?
En fait, depuis tout petit, j'adore me balader. Moi, je viens du Calvados de base, sur les plages du débarquement, et je faisais beaucoup de pêche à pied quand j'étais petit. Et petit à petit, j'aimais bien être seul aussi, dans la nature, écouter. Et puis sur le collège, on va dire, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser pour aller travailler dedans, en fait. Voilà.
C'est ce rapport essentiel presque, enfin ce rapport sans réfléchir presque à la nature, alors que bon, il y a plein de connaissances à avoir bien entendu, mais quelque chose d'assez naturel, c'est cet échange-là aussi qui est intéressant avec la nature.
Oui, c'est ça.
Quelque chose de viscéral, quoi.
Oui, et puis c'est accessible de partout si on prend le temps, en fait.
Quand on regarde, il y a forcément des trucs intéressants.
Toujours.
Quand on prend le temps, ouais, c'est vrai.
Ouais, ça me fait souvent rire. Des fois, je suis dans des blablacars et puis je parle de la nature, puis je dis que j'habitais à Lyon à un moment, puis il y en a, ils me disent qu'ils habitent à Paris, il n'y a rien. Et je fais, ah non, il faut prendre un peu plus le temps que ça parce qu'il y a toujours plein de choses, même dans des centres très urbains.
On aura l'occasion de parler nature durant toute l'heure que nous avons devant nous. C'est le printemps, en fait, hein, tout simplement. Ça me donnait envie de parler de nature. Est-ce que c'est vraiment le moment où la nature explose le plus ou c'est juste parce que c'est moi qui la regarde plus à ce moment-là?
Ah, je pense que c'est le moment où ça explose le plus. Vraiment, à partir de mars, même février déjà. J'en avais déjà un petit peu parlé dans d'autres émissions, mais les amphibiens, ils sortent d'un coup. On a en fait cette période de redoux qui revient. Donc tout le monde peut se reproduire, il y a de la nourriture en abondance aussi qui va arriver. Donc c'est vraiment la saison des amours, tout ça qui commence. Donc oui, on peut dire que c'est le réveil.
Eh ben, on aura l'occasion de parler justement de ce réveil de printemps avec toi, Dylan, durant toute l'heure qu'il y a devant nous. Pour ouvrir cette émission, je vous propose un peu de groove, parce que le groove ne fait jamais de mal, avec Woman, les... Ah non, les... C'est écrit trop petit, les Womack Sisters, avec le titre « Chauffé ».
keep my place.
The Womack Sisters avec le titre Chauffé.
Ouais, salut la matinale.
Hi, Principe Actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like the mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bon, ce matin, pas de message, vous m'avez pas laissé un petit coucou, vous n'avez pas donné de vos nouvelles, vous m'avez pas laissé un petit poème sur notre répondeur. Vous vous rattraperez la semaine prochaine, j'en suis certain. Vous pouvez laisser, bien entendu, un message sur le 02 32 62 57 32. On le diffuse vers 8h10 le matin pour notre plus grand plaisir. Laissez-nous des messages. On poursuit. Nous sommes toujours avec Dylan Honorato. J'ai écorché ton nom tout à l'heure et tu m'as gentiment laissé passer ça, mais on va rectifier tout ça. Chargé de mission spécialiste, enfin sur la valorisation du plan nature sur le département de l'Eure, mais au-delà de ça, un grand passionné et passionnant autour de la nature. Ce matin, on avait dit qu'on allait parler faune, flore autour du printemps, parce que c'était le moment ou jamais. Dernièrement, on vient quand même de se taper un petit épisode pluvieux et comme tout bon râleur, on peut dire il y en a marre, on veut du soleil, c'est nul. Alors que cette pluie finalement vaut de l'or. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un agriculteur il y a peu de temps qui disait là ce qui tombe ça vaut de l'or, petite pluie fine qui rentre dans les sols et c'est reparti. Ça sert à quoi ces pluies-là ? Enfin, est-ce que c'est aussi normal qu'au printemps on s'en tape tant ? Et qu'est-ce que ça dit de la nature qui va arriver ?
Ah oui, il faut encore un peu de pluie. On n'est pas encore en été. Et donc, au niveau agricole, et notamment sur des régions comme la Normandie, où on est habitué quand même à avoir un peu de pluie toute l'année, il faut que les cultures puissent encore se nourrir,
se gorger d'humidité.
Se gorger d'humidité pour encore pousser, grandir, fleurir. Là, je pense au lin. On est la première région exportatrice de lin. Et en fait, le lin adore la Normandie. Et si on adore la Normandie, c'est qu'on adore la pluie. Donc, il faut vraiment encore pousser un peu.
C'est ça. Donc, finalement, tous ces temps de pluie... Nous, quand on se balade, nous, citadins, j'ai envie de dire... Enfin, nous, citadins, on se balade beaucoup plus dans des endroits bétonnés. On se dit, cette pluie-là, elle nous fatigue. Quoi. On aimerait bien avoir un peu de soleil, profiter des terrasses et compagnie. Ben non, faut de la pluie, quoi.
Ouais, faut un peu de pluie, faut un peu de tout, quoi. Enfin, c'est le principe des saisons. Donc, hiver, il fait très froid, rien ne pousse. Ça casse un peu aussi tout ce qui va être les bactéries, les virus, si en fait il fait trop doux, bah il y a des espèces, des parasites qui vont survivre. Là, donc ça casse un peu tout. Ensuite, la culture, elle peut pousser, lever avec la pluie, le soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. Et après l'été, la récolte. Et puis on recommence en automne.
On recommence, voilà, c'est ça. C'est un cycle sans fin. Sur, tu évoquais les cultures. Quand on parle de culture, on parle bien entendu de cultures qui nous nourrissent, qui nous habillent. On parle du lin, on parle du blé, on parle de l'orge, on parle de toutes ces cultures-là. Mais sur cette notion agricole et culture, il y a aussi tout l'intérêt et notamment des fleurs, de tous ces pollinisateurs et tout ça. Il y a un lien quand même entre l'agriculture, on va dire agriculture, et puis tout ce qui se passe un peu autour.
Ah oui, il y a un énorme lien en fait. Là je vais vous parler facilement des fleurs messicoles qui vivent grâce en fait à la culture. Donc les fleurs messicoles, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire.
Ah bah non, c'est pour ça qu'on reçoit. Hein.
Donc toujours pour commencer, à chaque fois avec du public, on propose aux gens de savoir qu'est-ce qu'une espèce cavernicole. Donc c'est une espèce qui vit dans les...
cavernes.
Exactement. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Et une espèce arboricole.
Dans les arbres.
Et donc, messicole dans les messies, donc pas dans les joueurs de foot, mais précisément dans les moissons, messies-moissons.
D'accord, ah ouais,
et donc, c'est les fleurs des champs, donc là-dessus, on va avoir le coquelicot, qui est vraiment l'espèce phare, le bleuet, la chrysanthème des moissons, le vulpin des champs, l'agnelle des blés, donc plein de fleurs, en fait, colorées, qui vont vivre et qui ont vécu dès le début, en fait. Au début, elles venaient d'Asie mineure, dans les steppes, et puis, en fait, c'est développé l'agriculture par là-bas. Et elles ont profité en fait du moment où on récoltait. Elles se sont dit tiens, la terre est nue, on peut arriver facilement, on est les premières, donc on va pousser en même temps que tout le monde. Et petit à petit, avec la récolte des graines et puis on a ressemé les graines, et ben en fait dedans on avait aussi des graines messicoles. Et au fur et à mesure que l'agriculture s'est développée, et ben elles se sont aussi développées avec. Et donc elles sont arrivées en France 3000 ans plus tard. Donc on a ces fleurs en fait qui vivent grâce aux champs, aux cultures. Bon, le coquelicot est un peu partie des cultures. Hein. On en voit aussi partout. Vous regardez dans les
c'est
rues
ça,
des villes.
Oui, il a servi aussi dans les jardins.
Ouais,
dans
c'est
les...
ça. Et puis il pousse de partout maintenant. Il se dit oh, c'est bon. Hein. Je vais pas rester que dans les cultures. J'y vais.
Alors ces fleurs messicoles favorisent des choses. Enfin, elles ont une importance aussi dans ces cultures. Parce que quand on voit un champ de blé puis qu'il y a quelques fleurs entre dedans, on dit oh, c'est joli.
Oui, ah, carrément.
Mais est-ce que ça sert à autre chose que c'est joli?
Oui, au niveau des insectes. Ça va attirer beaucoup d'insectes, donc auxiliaires notamment. Donc auxiliaires ravageurs, est-ce que vous savez la différence?
Ah bah non, mais c'est une fois de plus, donc, c'est pour ça qu'on t'a invité.
En fait, dans les cultures, on va avoir des espèces ravageurs. Donc ils vont casser la culture, manger la culture, détruire la culture. Donc c'est des espèces que les agriculteurs détestent. Par contre, on va avoir des espèces auxiliaires qui vont être là soit pour manger des ravageurs, soit pour favoriser encore plus le développement. Donc là, je vais penser aux sirfs. C'est des petites mouches qui ressemblent à des guêpes. Donc souvent, on se dit « Oh, il y a une abeille !» Non, non, c'est une mouche déguisée en forme de guêpe. Et puis après, il va y avoir les coccinelles aussi, qui vont adorer les abeilles, notamment. Et là-dessus, bah, ça va aussi aider. Si je dis abeilles, on pense aussi au miel. Donc ça va aussi aider pour les producteurs, les apiculteurs. Voilà, je cherchais mon mot. Et donc, tout ça, les messicoles participent à cela.
Alors, ça participe parce que ce sont des fleurs, ce ne sont pas de mauvaises herbes.
C'est ça. Ah oui, il y a réellement, en fait, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des mauvaises herbes, même si on l'utilise familièrement. Il y a toujours une fleur qui va servir à quelque chose. Bon, des fois, mauvaises herbes, mais on pourrait peut-être le dire pour des espèces exotiques envahissantes, donc qui ne sont pas venues d'elles-mêmes, qu'on a apportées et qui, en fait, prennent le milieu de l'autre. Mais sinon, non, il n'y a pas de mauvaises herbes réellement et les messicoles n'en sont pas. Et autre fait sur les messicoles, mais dans la culture populaire, en fait, on a toujours aimé les messicoles depuis le 18e siècle à peu près. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des peintures de Monet, vu que c'est l'année de Monet cette année, mais Monet adore les messicoles, notamment le coquelicot qui ressort de ses peintures. Et puis en fait, le coquelicot et le bleuet, c'est vraiment les espèces phares, vu qu'on les a utilisés comme symboles, et on les utilise toujours comme symboles. Notamment depuis la Première Guerre mondiale, où en fait les Anglais ont décidé en fait de prendre le coquelicot comme fleur de mémoire, et nous les Français on a pris le bleuet, donc le bleuet de France. Et donc en fait dans la culture populaire aussi les messicoles sont très importantes.
Alors sur les cultures qu'on vient d'aborder, ça on voit bien comment ça fonctionne. Maintenant, ça n'a quasiment plus aucun secret pour nous. Maintenant que tu nous expliquais, Dylan. Mais il y a aussi dans ce qu'on va appeler dans le maraîchage, il y a aussi tout un tas de fleurs qui se mélangent au maraîchage. Moi, j'ai toujours entendu dire, faut mettre des œillets pas loin des tomates, des trucs comme ça, ce qui favorise ou ce qui éloigne certains nuisibles ou favorise la stimulation des uns et des autres. Depuis toujours, alors c'est pas forcément question missicole là, hein, c'est, vu que c'est sur le maraîchage, mais l'idée est à peu près la même.
Bah,
c'est les espèces croisées en fait, c'est comment les espèces, s'appuient l'une sur l'autre.
Il y a des espèces, par exemple, j'ai pensé aux légumineuses, aux fabacées, donc, comme le mimosa, mais aussi tout ce qui va être les pois, comme les haricots aussi. Eux, ils vont apporter par exemple beaucoup d'azote en fait, dans le sol, vu qu'ils ont des petites nodosités, des champignons au pied, qui apportent de l'azote. Et ça, il n'y a pas grande plante qui peut le faire. Donc ça, c'est top d'en avoir pour avoir un peu d'azote dans ton sol. Si tu n'as pas d'azote dans ton sol, tu as moins d'engrais, tu peux moins pousser. Donc c'est important en fait, de lier les deux entre eux pour favoriser en fait, le développement des deux.
Alors ça, on voit bien quand l'homme intervient, c'est ce qui se passe. Mais alors dans les milieux totalement naturels, en forêt, en terrain non exploité, est-ce qu'il se passe la même chose naturellement en fait, ces associations d'espèces, il y a telle espèce, ça pousse à l'autre. Je pose des questions de plus en plus dures, hein, mais finalement je vais te coller, au bout d'un moment je vais te coller. Mais est-ce que dans l'espace naturel, on va dire, où l'homme n'intervient pas, il se passe les mêmes choses naturellement quoi.
Il y a quatre types d'interactions, si je me souviens bien de mes cours. Il y a tout ce qui va être mutualisme, symbiose, là c'est vraiment des espèces qui vont se chercher, donc soit qui vont vivre vraiment presque au niveau cellulaire pour se favoriser, et d'autres qui vont juste vivre et se donner de l'aide à l'un ou à l'autre. Par contre, à l'inverse, il y a aussi des espèces, notamment les pins, l'eucalyptus, bon on en a quelques-uns mais ça vient pas réellement de chez nous, qui vont vraiment acidifier le sol et du coup défavoriser toutes les autres plantes et prendre l'espace pour elles. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre les plantes pour laisser pousser l'autre ou pas. Et aussi pour attirer ou pas un insecte. On a beaucoup d'insectes qui vont en fait vivre sur une plante et qui vont protéger la plante des autres prédateurs.
C'est-à-dire qu'il y a des espèces d'insectes qui ont qu'un seul squat, c'est un seul type de fleur.
C'est très connu chez les papillons, par exemple.
C'est tout le truc qu'on a avec les buis qui n'existent quasiment plus parce que c'est la... Je sais plus comment ça s'appelle. La chenille, c'est pas j'allais dire la mérule, c'est pas la mérule, mais c'est un papillon
qui détruit le buis.
Oui. Parce que c'est seulement dans cette plante-là qui s'y colle.
Là, on commence vraiment à être très précis. Je me connais moins en buis. Mais je vais savoir que des papillons vont avoir leur chenille qui va se nourrir que de cette plante-là. Et donc, on a besoin de cette plante. Je pense au damier de la succise qui va vraiment vivre sur une seule plante. Et du coup, pour préserver ce papillon, il faut absolument qu'on préserve la fleur. Et donc, ça, c'est une espèce très rare d'ailleurs, le damier de la succise.
D'accord. Voilà. Peut-être parce que la plante est rare aussi.
Ou en fait, son milieu est de moins en moins présent. Et donc, en fait, on va faire de la culture, par exemple, on va urbaniser et on va pas faire attention là où elle pousse. Je pense aussi à plein de... Là, on a des coteaux à Évreux. Donc, en fait, les coteaux d'Évreux, c'est très intéressant pour les pelouses calcicoles. On va avoir plein d'espèces de plantes qui vont pousser. Donc, plein d'espèces d'insectes qui vont être intéressés par telle ou telle plante.
Et donc ça c'est ce qu'on appelle un petit peu un écosystème en fait, hein. C'est complètement
c'est ça, toutes les interactions,
c'est les interactions entre les espèces et puis le milieu qui font ce qu'on appelle écosystème. Autour, dans l'heure, on a un écosystème très riche, très varié. Ouais. On est sur une zone où on est bien au niveau diversité.
Alors on a des énormes plateaux agricoles. L'heure est très connue pour son agriculture. Donc sur ces plateaux on va avoir un peu moins de biodiversité, on va dire, riche, même s'il y en a. Je vais parler des messicoles. Même si les messicoles, il faut les préserver, donc il faut faire attention à la sélection des graines, il faut faire aussi attention aux intrants chimiques qui peuvent des fois arriver sur certaines cultures. Mais du coup, le département participe à accompagner en fait, l'agriculture avec la Fédération de chasse, d'ailleurs, et le Conservatoire botanique de Normandie. Donc ça, c'est sur les plateaux. Et après, on va avoir des petites mares aussi sur les plateaux. On va avoir des amphibiens. Petit clin d'œil à Alexandre Rurel qui est à fond dans les amphibiens. Et par contre, après, on va avoir les coteaux. Ça, les coteaux, c'est très, très important. On a vraiment beaucoup de coteaux en Normandie, notamment sur les bords de Seine ou même dans Évreux, sur la vallée de Liton. Il y a la vallée d'Eure aussi. Donc ça, c'est sur ces coteaux-là où on a vraiment une richesse importante, voire des espèces endémiques. Donc endémiques, des espèces qui ne vivent que là, qui viennent d'ici et qui n'existent nulle part ailleurs.
J'ouvre un petit peu ce raisonnement à nos camarades rouennais notamment, sont diffusés sur toutes ces zones-là. La Seine maritime a aussi cette même richesse ou ça s'arrête vraiment à l'heure ?
Non. Les frontières de la biodiversité.
C'est ça.
Ouais, il y a un péage et personne ne veut passer après la Seine maritime.
Bah, le péage d'Incarville, hein, c'est
vrai. Ah ouais. Non, non.
La biodiversité a dit trop cher.
Pas du tout. En fait, toute la vallée de Seine, des boucles de la Seine, notamment juste de son estuaire jusqu'à presque sa source, on aura toute une grande biodiversité. Après, c'est vrai qu'on change de gradient peu à peu. Hein, on n'a pas les mêmes plateaux que vers Dijon. Mais du coup, on a trois espèces endémiques, par exemple, qu'on a à la fois en Seine-Maritime et dans l'Eure. Donc, on a la violette de Rouen. Donc, violette de Rouen.
Tout est dit dans le nom.
La biscutelle de Neustrie.
Ça ressemble à quoi, là ?
Alors, la biscutelle, c'est marrant, ça a des fruits en mode deux petites lunettes, comme ça. Et c'est une fleur toute jaune qui pousse sur nos coteaux. La violette de Rouen, elle, c'est une fleur violette, une violette. Et elle qui va pousser notamment sur des éboulis. Donc en fait, on a des coteaux, les andelys par exemple. On va voir que des éboulis, vu que c'est de la craie, ça s'effrite beaucoup. Donc ces éboulis, eh ben, c'est la première plante à arriver. Et toute violette en plus, donc super top. Et après, la troisième que je connais un peu moins, vu qu'elle est en Seine-Maritime. Et moi, j'ai mes frontières à moi.
Toi, tu prends pas le péage.
Et c'est l'ibéris des montagnes.